Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour sur les ondes de CFA 88.3. Donc, comme je le disais un peu avant la pause, le Signal Gate qui a lieu présentement du côté américain. Qu'est-ce que le Signal Gate? C'est une application à la base de messagerie. Donc, ça aurait pu être le Messenger Gate ou le WhatsApp Gate. Mais cette fois-ci, c'est Signal qui a été utilisé par des personnes très importantes de la sécurité américaine, notamment le directeur du FBI, mais en tout cas des gens haut placés dans l'organisation, ainsi que Jill Evans, qui n'avait pas de nom de code aussi d'ailleurs, c'était vraiment leur propre prénom et nom qui était utilisé, et surtout un journaliste de The Atlantic qui a été rajouté à cette conversation-là, et pas n'importe lequel. Le rédacteur en chef de The Atlantic, qui est un magazine politique aux États-Unis, Jeffrey Goldberg, qui, par une journée ordinaire de mars, reçoit une invitation à rejoindre une conversation pour parler des bombardements au Yémen. Et lui, au début, en lisant les messages qu'il reçoit dans cette conversation-là, il n'est pas tout à fait sûr que c'est une vraie affaire parce que ben bombarder le Yémen du jour au lendemain, les États-Unis, d'où ça sort, c'est quoi quelle est l'importance de ça, et prend un petit temps, un petit moment de relire et de regarder qui sont dans cette conversation-là, et on y retrouve notamment Jill Evans, vice-président des États-Unis, le secrétaire à la défense, voilà, Pete Hegseth, ancien militaire et présentateur du Salut Bonjour de Fox News, et plusieurs autres membres très importants du cabinet Trump. Donc là, il se pose la question, c'est-tu une joke? C'est-tu une véritable affaire? Et donc, il ne réagit pas tout à fait sur le coup. Et lorsqu'il commence à recevoir des messages sur « Ah oui, la météo est belle au Yémen, nos missiles vont atterrir à telle place, on bombarde telle affaire, il va y avoir telle affaire à telle heure précise. » Et c'est là qu'il commence à se poser des questions. Est-ce que je suis en train de recevoir des informations qui normalement devrait être classé top secrète et rendu à la date, à l'heure en question. Ben, en fait, c'est 2 heures à l'avance. Fait que il se dit, OK, je vais surveiller. Donc, il était sur la route. Il a vraiment pris le temps d'arrêter son véhicule dans le premier parking qu'il a vu et il a attendu l'heure fatidique des bombardements. Ouais. Et ça s'est produit.
Ouais, ouais.
Donc, il avait les véritables informations dans son téléphone sur une conversation Messenger super banale, pas sécurisée.
Mm-hmm.
Et parce qu'il voulait pas sortir avec ça, d'un coup, ça serait une joke. Là, il s'est rendu compte que, ben, Colin, j'ai la vraie affaire dans
puis
les mains.
Il a quitté ensuite, quand il a vu que c'était véridique, il a quitté justement la chaîne parce qu'il était comme, OK, c'est beau.
Ça n'a pas de bon sens.
T'as pas envie de vivre avec ces secrets-là, tu sais, c'est comme.
Ben, c'est ça. Puis le problème, c'est comment ça se fait qu'il a été ajouté à cette conversation-là. Ouais. Et c'est là que ça devient intéressant. Le Conseil de la Sécurité nationale a confirmé que l'échange était authentique et a entrepris de faire les vérifications pour voir comment le journaliste de The Atlantic avait pu se retrouver dans le groupe. Donc, la Maison-Blanche a authentifié les messages et malgré tout, le secrétaire Hegseth, en sortant de l'avion une fois atterri à Hawaï où il était en déplacement, a commencé à accuser le journaliste de The Atlantic d'avoir coulé de l'info, que c'était de sa faute, qu'il n'y avait pas d'affaires, que quand il a vu qu'il avait été invité dans cette conversation-là, il aurait dû quitter la conversation, que c'était un menteur de toute façon, ce journaliste-là de l'Atlantique, qui inventait des fake news puis tout ça. Donc lui, il avait comme pas eu le mémo de « Non, non, on l'authentifie, là, c'est une véritable conversation. » Donc il a tenté de renverser, ben, un peu à la Trump, il a tenté de mettre le blâme sur le journaliste, mais la Maison-Blanche avait quand même déjà reconnu son erreur entre-temps. Goldberg avait jugé préférable de ne pas divulguer lundi dans son premier article le contenu de l'ensemble des messages échangés. Mais comme il a vu cette enfilade-là, et justement, ben, Hegseth qui l'attaque, qui dit qu'il est pas, que c'est un menteur, ben, il a publié la conversation parce qu'il avait encore accès
Il a fait des screenshots, je pense.
C'est ça, il avait gardé en mémoire la conversation. parce qu'il n'y avait pas de moyen de protéger cette conversation-là. Ce n'est pas une conversation privée. Donc, il pouvait en plus faire des screenshots, faire des captures d'écran avec son appareil et avait l'intégralité de la conversation qui avait été
publiée. Oui, jusqu'à temps qu'il quitte. Ça n'a pas été précisé si la conversation a continué parce que justement, il avait quitté. Puis pour préciser, là, les gens qui étaient, entre autres, qui faisaient partie de cette conversation-là, on avait J.D. Vance, Pete Hegseth, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, le secrétaire d'État, Marco Rubio, le directeur de l'intelligence nationale, National Intelligence, Tulsi Gabbard, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, je sais pas si je dis son nom correctement, le député en chef, Deputy Chief of Staff, fait que le, excusez pour les traductions, mais le Deputy Chief of Staff, Stephen Miller, le Chief of Staff de la Maison-Blanche, Susie Willis, Steve Witkoff et un envoyé spécial du Moyen-Orient et de la Russie. Donc, vous donner une idée des gens qui faisaient partie de cette conversation-là. Et je vous invite vraiment à aller le voir là, sur le New York Times. C'est un article qui s'appelle « The Leak Signal Chat Annotated ». Fait que tu as les petites annotations qui vous expliquent, pour que vous compreniez très bien qu'est-ce qui se passe, justement. Et à un moment donné, c'est incroyable. Il utilise des emojis.
Comme c'était.
C'est Michael Waltz. Mm-hmm. Fait que Michael Waltz dit j'écris trop vite. Le premier target, their top missile guy, il y a eu un ID positif. Fait qu'ils ont percuté leur objectif. T'sais, missile a atteint son objectif. Fait qu'ils ont eu la confirmation qu'ils l'ont vu rentrer dans le building de sa copine et maintenant le building s'est effondré. J.D. Vance, il répond « Excellent ». John Ratcliffe, il dit « A good start » et Michael Waltz met un point vers l'avant, un drapeau américain et une flamme. Yeah, America!
Parce que c'est fire, tout ça. Et puis, ben, c'est ça, ben, il y a les détails. Les détails sont là. La première vague de F-18 qui larguera les premières bombes à 14h15. G.D. Vance a dit qu'elle allait faire une prière pour nos militaires.
Oui.
Bonne chance à nos guerriers, a-t-il dit également. Prions pour la victoire, disait-il. Et le personnage qui est le plus important dans toute cette histoire-là, c'est le fameux Michael Waltz. Puisqu'il est... il est à la National Security Advisor, donc c'est un conseiller à la sécurité nationale. Et c'est lui qui aurait ajouté le journaliste dans la conversation.
C'est parce qui, que excuse-moi?
C'est le conseiller à la sécurité nationale, Michael Waltz, qui a ajouté le journaliste à la conversation parce que dans les captures d'écran qui ont été envoyées, le premier message tout en haut qu'on peut lire, c'est « Michael Waltz added you to the conversation ». Donc, toutes les informations de la conversation sont détaillées.
Ouais.
Et que notamment, ces messages-là devaient seulement être supprimés dans une semaine. Donc, même pas en les ayant vus comme sur Snapchat ou dans les 24 heures, la durée d'effacement de ces messages-là devait durer une semaine. Donc, dans une semaine, les messages auraient été effacés. Donc, n'importe qui tombe sur le cellulaire de n'importe lequel des 14-15 personnes de la conversation et a toutes les informations qui ont été déployées pour les militaires. Leur défense, aujourd'hui, Michael Waltz s'est défendu de ne pas connaître le journaliste en tant que tel, mais il y a des photos en 2021, lorsqu'il était à l'ambassade de France, ils sont photographiés les uns à côté des autres. Donc, il était là. Michael Waltz et le journaliste étaient au même événement. Et donc, c'est pour ça. Donc, les premiers messages, c'est ça. C'est chacune des personnes qui se présentent en état qui ils sont, avec leur vrai nom et tout ça. C'est pas des noms de code. Fait que là, c'est pour ça que la question s'était posée du côté du journaliste. Coudonc, je suis dans une vraie affaire ou c'est une joke?
Ouais,
mais
ouais.
Voilà, c'est quand à 14h15, les premières bombes sont tombées au Yémen que là, il a fait comme « Oh! » OK, je suis dans la vraie affaire pour vrai.
Ouais, puis vous donnez une idée, le PDXED, justement, dans un de ses messages, il dit « On est en ce moment correct pour les obsèques. » Le obsèque, pour vous donner une idée, en fait, c'est la gestion et le contrôle des informations militaires pour atténuer les connaissances d'un adversaire. Donc, en soi, il a dit à tous les gens de la conversation « Hey, on est good, il n'y a pas de fuite d'informations. c'est littéralement ça.
Oui, on était clear.
On est clear sur les obsèques, il n'y a pas de fuite d'informations et on peut aller de l'avant avec l'opération.
Voilà, c'est ben, en tout cas c'est, à ce moment-là effectivement le journaliste du ben parce que si par exemple la conversation était tombée entre de mauvaises mains, s'il y avait vraiment quelqu'un qui avait été rajouté qui avait mettons des contacts au Yémen, ben là il aurait pu contacter directement le monde de ouais by the way tel bâtiment va être attaqué à 14h15 parce que là il était midi 15 quand la conversation a commencé. Faites de quoi, sortez le monde, arrangez-vous pour qu'il y ait le moins de blessés possible. Chose qui, évidemment, ne sera pas produite, mais reste quand même que c'est problématique, qu'on se doute bien que la Maison-Blanche doit avoir son propre service de message personnel et pas obligé de passer sur une application commune. Tu sais, c'est comme s'il était sur Skype. Ouais, c'est comme s'il y avait une conversation sur Skype, comme si de rien n'était, que c'était super normal. Et voilà, donc les participants au groupe sur Signal ont-ils commis un crime? Ben, on se pose la question. Même si l'administration Trump continue de défendre les membres de cette conversation-là en disant que ben, c'était pas vraiment des informations qui allaient être tant classifiées que ça, parce que de toute façon, ça allait savoir qu'il allait avoir une attaque au Yémen. Fait que tu sais, il essaie de minimiser la chose. Mais une chose qui est certaine, c'est que si ça s'était produit pendant Biden, on serait monté aux barricades du côté des Rouges, puis on aurait voulu que tout le monde démissionne dans les 5 secondes ben on, suivant la révélation de The Atlantic. Mais aujourd'hui, l'administration Trump tente de diminuer ça.
On rappelle Clinton, là?
Oui, c'est ça. Ben, c'est vrai. Le meme qui a surtout circulé sur les réseaux sociaux, c'est que les Rouges déchiraient leurs chemises et faisaient des plaintes et braillaient à
cause de leur courriel, oui.
Parce que Hillary Clinton avait une fois communiqué avec quelqu'un de l'administration démocrate avec ses courriels personnels et non pas avec son adresse email de job. Et là, dans ce cas-ci, ils vont littéralement dire on va bombarder telle place à telle heure sur une application comme Signal, qui est tout à fait ordinaire. Et
c'est WhatsApp. C'est WhatsApp.
C'est ça. C'est comme si c'est une conversation publique. Elle n'était pas privée parce que n'importe qui avait accès à la conversation ou qui recevait une invitation pouvait se joindre à la conversation et obtenir tous les messages. Donc, ils sont dans la barre. Évidemment, les démocrates demandent la démission de tout ce beau monde-là. Mais pour une raison obscure, Donald Trump continue de dire que Exec a fait un super boulot. Il n'a rien à voir avec ça. C'est une chasse aux sorcières. Et ben techniquement, oui, Pete Exec n'a pas ajouté le journaliste dans la conversation. Mais en ce moment, Michael Waltz n'a pas l'air d'être parti non plus pour démissionner, même si c'est lui qui a le plus gaffé dans toute cette histoire-là. Courte pause ici sur les ondes de CFAQ, au retour, la conclusion du 9 de cette semaine.